La dernière guerre mondiale occupe une part importante de nos programmes scolaires, et la collaboration reste d'ailleurs un sujet inévitable pour qui veut comprendre cette période. Pour l'illustrer, une image revient fréquemment dans les manuels, mais aussi dans l'imaginaire, celle des femmes tondues pour avoir entretenu des relations avec des Allemands. Pourtant, n'est-ce pas là une image réductrice, y compris lorsqu'on s'intéresse aux Bretonnes ayant collaboré ? Bienvenue dans la rubrique Démunkage, l'émission qui démystifie nos idées reçues sur l'histoire de la Bretagne. De l'épuration des femmes à la libération, la mémoire collective ne retient cependant que les femmes tondues, dont le nombre est estimé entre 1000 et 2000 en Bretagne et à 20 000 en France. De manière quasi systématique, cette figure de la tondue est associée à celle de la collaboratrice sentimentale, ou, pour le dire autrement, de la femme qui a couché avec les Allemands. Pourtant, moins de la moitié des femmes tondues à l'échelle nationale le sont pour avoir entretenu des relations sexuelles avec l'occupant. Les autres sont châtiées pour des faits qui ont également pu être accomplis par des hommes, comme par exemple une activité salariée au service de l'occupant, ou une délation. C'est ce que confirme l'étude d'une autre réalité, certes moins spectaculaire mais tout aussi exceptionnelle, la forte présence des femmes devant les cours de justice et les chambres civiques, qui sont des tribunaux spécialement créés pour juger les collaborateurs et les collaboratrices. En effet, alors que le taux de comparution de femmes est ordinairement de l'ordre de 10% au pénal, ces dernières représentent un quart des personnes jugées pour des faits de collaboration en France à la Libération. Dans la Bretagne aux 5 départements, qui correspond au ressort de la cour d'appel de Rennes, ce taux dépasse même les 40%, soit un peu plus de 2200 femmes pour un total d'environ 5400 individus jugés. Intéressons-nous à l'une de ces femmes. Le 15 juin 1946, une certaine Marie est condamnée à mort par la cour de justice du Morbihan pour avoir appartenu à l'Abwehr, le service de contre-espionnage de l'armée allemande, entre 1942 et 1944. Les informations qu'elle fournit à l'occupant durant cette période provoquent l'exécution ou la déportation de nombreux résistants. L'un de ses chefs la décrit alors comme un agent extrêmement habile et précise que ses renseignements correspondent toujours aux faits. Au-delà de la valeur des informations apportées à l'occupant, le procès de Marie met en lumière deux réalités souvent ignorées. D'une part, que certaines femmes ont pu rejoindre les rangs de la collaboration la plus extrême durant l'occupation. D'autre part, qu'elle n'échappe pas à la répression des faits de collaboration la plus sévère à la libération. Justement, la libération apparaît donc comme un moment exceptionnel dans l'histoire judiciaire des femmes, alors que les relations entre les sexes sont tendues en raison de la défaite de 1940 et des 4 années d'occupation. La justice participe clairement au rétablissement d'une France virile, au rétablissement d'un ordre pénal, social et moral masculin. Étudier les archives des tribunaux de l'épuration permet surtout de constater que les Bretonnes ne sont pas seulement jugées pour des faits nés d'une contrainte avec l'occupant, et qui s'expliquent par la peur, la lâcheté, la cupidité ou encore l'amour. Le cas de Marie en témoigne. Des femmes sont également jugées pour collaborationnisme, c'est-à-dire pour une adhésion, un militantisme, voire un activisme au service de l'Allemagne nazie. Minoritaires, ces collaborationnistes n'en demeurent pas moins présentes devant les juges de l'épuration, comme en Loire inférieure, où elles forment plus du tiers des femmes jugées par la chambre civique et encore près de 10% de celles jugées par la cour de justice. Absentes de la collaboration militaire, elles peuvent tout d'abord s'engager dans la collaboration politique en multipliant les propos en faveur de l'ennemi ou en adhérant au parti collaborationniste. Une partie a certes adhéré pour des raisons plus tactiques que politiques, à l'image de ces femmes espérant trouver du travail ou faire revenir un proche prisonnier de guerre en Allemagne, mais une autre partie est véritablement convaincue par la collaboration. Tout en assistant régulièrement aux réunions, certaines collaboratrices montent à la tribune, défilent revêtues de leurs uniformes ou distribuent encore les journaux de leur parti dans l'espace public. Enfin, les Bretonnes ont également pu rejoindre les rangs de la collaboration policière en travaillant pour les services de renseignement allemands. Elles deviennent alors des indicatrices plus ou moins régulières ou, comme Marie, de véritables agents de renseignement. Encartées, ces dernières se voient attribuer un pseudonyme et touchent un salaire fixe qui est éventuellement augmenté de primes en fonction de la qualité des informations apportées. Leur activité principale consiste à obtenir des informations sur les milieux résistants en les épiant, en les filant, voire en les infiltrant. Toutes démontrent que le collaborationnisme des Bretonnes a donc bien existé. Merci à Fabien Lostec pour l'écriture de cet épisode et à Betsabé Levin pour la technique. L'épisode que vous venez d'entendre vous est présenté par l'association Rubriken Historbraise. Elle rassemble les jeunes qui font vivre l'histoire de Bretagne. Elle est ouverte aux étudiants, aux médiateurs, aux chercheurs, mais aussi aux enseignants qui souhaitent valoriser cette histoire. Si ça vous a plu, vous pouvez tout à fait nous soutenir en prenant part à notre aventure ou tout simplement en nous faisant un don via Helloasso afin de développer nos futurs projets. Retrouvez-nous enfin sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt. À la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Ah, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants.